Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous bénissons l'Éternel pour cette occasion qu'il nous donne de partager avec vous la parole, sa parole merveilleuse. J'ai de la joie à venir ici. Alléluia. Et vraiment, je vous aime beaucoup dans mon cœur. Qu'on voit la joie, la vie, c'est fortifiant, ça encourage. Alléluia. Alléluia. Amen. On sent que vous avez la vie de Dieu, on voit la joie de Dieu. Et c'est vraiment fortifiant. Amen. Chaque fois que je quitte ici, je repars au pays, je suis revigoré, fortifié, encouragé, déterminé à voir les choses changer dans mon pays. Amen. Alléluia. Car c'est là mon champ missionnaire. Amen. En Europe, on vient en visite, on vient saluer les frères, on vient partager les choses que Dieu a mis dans notre cœur. Mais il faut être là où Dieu t'appelle. Alléluia. Il faut être toujours au bon endroit. Amen. Alléluia. Et vous savez, quel que soit les messages que vous pouvez avoir, si vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, vous allez échouer. Vous savez, lorsque tu reçois un message de Dieu, il y a toujours à peu près 5 questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quand Dieu veut que tu commences, faut te poser quand, où et puis avec qui. Alléluia. Parce qu'on peut faire de grandes erreurs si on ne répond pas à toutes ces questions. Beaucoup de gens ont reçu une vision de Dieu, mais n'ont pas déterminé le où. Ils ont voulu servir et communiquer le message qu'ils avaient reçu partout, là où Dieu ne les a pas envoyés. Vous savez, Jésus n'est jamais sorti d'Israël quand il a annoncé son message. Alléluia. Il a appliqué le où. Pourtant, il était venu pour sauver toute l'humanité. On leur a dit, non Seigneur, si tu veux sauver toute l'humanité, tu ne peux pas rester en Israël. On va te faire, il faut aller faire une croisade en Égypte, il faut aller faire une croisade quelque part en Afrique, il faut vers l'Asie. Mais il savait le où. Il est resté là où il fallait qu'il soit. Et à partir de là, le monde a été influencé. Alléluia. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a connu le où. Amen. Il connaissait le quand. Jésus a commencé à prêcher à 30 ans. Je peux dire à partir de 20 ans, 21, il était déjà majeur. Il a tenu près de 10 ans pour commencer. Pourquoi? Pourtant, il y avait des malades, il y avait des morts, il aurait pu ressusciter des gens. Il a dû voir des paralytiques dans les rues. Il a vu des gens qui avaient des problèmes. Il avait la solution, mais il n'a pas commencé à l'appliquer. Parce qu'il connaissait le camp. Alléluia. Connaître le camp, c'est très, très, très important. Vous pouvez avoir la vision, mais si vous ne savez pas quand vous allez commencer, vous allez échouer. S'il commençait à 20 ans, il allait rater son ministère. Pourtant, il avait le bon message, il connaissait le lieu, mais il n'a pas su quand. Amen. Il faut toujours savoir quand. Il faut toujours aussi connaître avec qui. Si vous ne savez pas avec qui vous allez faire votre ministère, avec qui vous allez réaliser votre vision, vous allez avoir des problèmes. La Bible déclare que Jésus a passé toute la nuit en prière avant de choisir les apôtres. C'était très important, le avec qui. Alléluia. S'il n'a pas pris les bons apôtres, l'évangile ne serait pas arrivé jusqu'ici. Donc, il pouvait connaître le temps, le lieu. Mais avec les mauvaises personnes, ça ne peut pas marcher. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour que vous savoir ce que Dieu attend de vous. Je voudrais partager avec vous ce matin un message sur la vie chrétienne. Quand un peu dans le même ordre des messages que j'ai à donner jusqu'à présent, il y a beaucoup de parallèles avec l'enseignement sur le tabernacle. Alléluia. Le pasteur Yvan me disait que sûrement que nous prendrons un temps plus tard pour enseigner ces choses dans le détail, parce que bon, à cause du temps, nous sommes obligés de survoler. Mais je prie après que vous puissiez prêter vraiment attention aux choses qui sont dites. Je voudrais parler de la vie chrétienne victorieuse. Je vais toucher quelques points de la vie chrétienne victorieuse, parce que de même que le tabernacle, c'est un enseignement qui est logiquement assez long, qui parle de différentes choses dans la vie chrétienne. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager avec vous, une vie chrétienne de victoire. Lorsqu'on parle de victoire, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a votre personne, vous-même, il y a les éléments extérieurs et je peux laisser à votre personne, votre destinée, ce que l'Éternel veut que vous puissiez faire. Alléluia. Parce qu'un homme ne peut pas être reconnu victorieux s'il n'a pas réalisé ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé sur la terre. C'est vrai que la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais ce n'est pas seulement de rester saint. Mais c'est être saint pour agir. C'est être saint pour faire sa volonté. C'est être saint parce que la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et lorsque nous voyons Dieu, nous sommes capables de communiquer la vie qu'il a mise en nous. Amen. La sanctification est le moyen qui nous permet de nous approcher de Dieu, mais ce n'est pas la finalité. Amen. Alléluia. Mais c'est un élément extrêmement important dans la vie chrétienne de victoire. Et je veux dire quelques mots là-dessus, sur la vie chrétienne victorieuse. En ce qui concerne les éléments intérieurs, généralement dans cet enseignement, comme je dis, je le divise en deux parties. Les éléments intérieurs qui nous donnent d'avoir une vie chrétienne de victoire, et puis aussi les éléments extérieurs. Dans les éléments extérieurs, nous aurons l'occasion, comme nous sommes ensemble, comme la sœur l'a dit, d'en parler, avec des enseignements, des situations comme ce que j'appelle le jour et la nuit. Je sais pas, j'en ai parlé ici une fois, peut-être. Pas prêcher, mais juste enseigner le jour et la nuit, qui parle des temps. Alléluia. Qui parle du temps. Il arrive des moments où, que vous, quel que soit votre zèle, votre consécration, votre vie de prière, vous passez par un moment qu'on appelle la nuit. Mais ça aussi très rapidement. C'est différent des temps d'épreuve. C'est différent du désert. Le désert, c'est beaucoup plus long. La nuit, le jour, c'est un phénomène que vous ressentez. Il y a des moments où vous n'avez pas du tout. Vous avez de bonnes intentions, mais vous n'avez ni la force de jeûner, ni la force de prier. Bon, ça, on appelle ça la nuit. Et quand tu arrives à la nuit, il y a une disposition à prendre. Jésus pouvait dire à ses disciples, travaillez pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne fait travailler. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, vous avez des moments comme la nuit, vous avez aussi le combat spirituel, les démons, tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne de victoire. Mais il y a ce sur quoi je vais insister, c'est sur les éléments intérieurs. Les choses dont nous avons besoin pour avoir une vie chrétienne de victoire. Et dans les éléments intérieurs, vous avez ceci. C'est que pour être un chrétien de victoire, il faut bien sûr, premièrement, être réellement converti. Amen. Voilà. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, mais n'ont jamais véritablement donné leur vie au Seigneur. Beaucoup de gens ont l'attitude de chrétien, mais n'ont jamais vraiment donné leur vie à Jésus. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir une vie chrétienne de victoire. Quand nous parlons de vie chrétienne de victoire, nous parlons aussi de vie chrétienne qui ne vont pas en dents de scie. Amen. Beaucoup restent dans la foi, mais ont une vie chrétienne en dents de scie. Un moment, ils sont très forts, un moment, ils baissent. Ce n'est pas forcément dû aux éléments extérieurs, mais ça peut être dû à certains éléments intérieurs, à des choses qu'ils n'ont pas envie de vaincre et de surpasser dans leur marche avec le Seigneur. Alléluia. Et ce sont ces éléments intérieurs dont nous parlerons aujourd'hui. Nous donnons quelques mots. Bon, je bénis l'Éternel, nous avons pu envoyer quelques CD qui traitent en détail ces choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21. Il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leur scribe. Alléluia. Le Seigneur dit dans ce passage, un verset que nous connaissons, que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui viennent à l'église, qui prient, qui disent le nom de Dieu, n'hériteront pas forcément le royaume de Dieu. Mais c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses. On parle non seulement du salut, mais l'héritage du royaume ne se borne pas seulement au salut. Le salut n'est que l'introduction dans les choses du royaume. La vie du royaume est beaucoup grande. Quand Dieu dit, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'ils iront en enfer. Amen. Voilà, ils n'auront pas l'héritage des choses célestes. Ils ne vont pas profiter des grâces divines. C'est tout ce que cela veut dire. Donc, tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur n'hériteront pas forcément le royaume de Dieu dans toute sa plénitude. Amen. C'est vrai que souvent nous interprétons ce passage comme ils n'hériteront pas, ils ne seront pas sauvés. C'est vrai que ça traduit aussi ceux qui ne seront pas sauvés, mais aussi ça traduit ceux qui viennent à l'église, qui parlent à Dieu, qui prient le Seigneur et qui ne vivent pas constamment dans ce que l'Éternel attend d'eux. Amen. Et Dieu dit que tous ceux qui disent Seigneur, beaucoup parmi eux n'héritent, certains parmi eux, pardon, n'hériteront pas le royaume de Dieu. La volonté du Seigneur pour toi, c'est que tu sois sauvé, mais c'est que tu puisses hériter des grâces divines. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, n'est-ce pas, spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Nous avons tout reçu en Christ. Alléluia. Et nous devons faire venir ces choses-là dans nos vies. Amen. Le Seigneur même va jusqu'à dire, certains ont prophétisé, certains ont fait des miracles en son nom, mais n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi, donc pour parler à ça, si quiconque entend ces paroles et les met en pratique, sera semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les torrents sont jetés contre cette maison, et cette maison est restée solide, parce qu'elle était bâtie sur le roc. Alléluia. Vous savez, dans les régions où il pleut beaucoup, vous avez des problèmes. Si vous ne voulez pas que votre maison puisse s'effondrer, il faut avoir une très grande fondation. Vous le sentez souvent, ceux qui ont fait des études de génie civil, c'est ma formation, vous savez que, par exemple, lorsqu'on va construire un pont, sur un courant d'eau, lorsqu'on commence à fouiller le sol pour poser la fondation, on cherche ce qu'on appelle une roche, qu'on appelle la roche mère. On la recherche. Tant que vous n'avez pas trouvé la roche mère, vous ne pouvez pas poser la fondation du pont. Parce que, comme vous voyez, quand le fleuve et avec les courants d'eau, le sable et tout le sol bougent plus fortement en surface et plus faiblement dans le fond. Donc, si vous posez une fausse fondation, avec quelques tâches, elle va se déplacer et le pont va se casser. Donc, on cherche une roche dans le sol. Elle peut être très profonde, elle peut être très, très éloignée. On cherche une roche qui, elle, est stable. C'est ce qu'on appelle la roche mère. Elle ne bouge pas. Et sur le chemin de la rencontre de la roche mère, vous pouvez rencontrer plusieurs autres rochers. Donc, on fait des tests, on met des dynamites. On explose, on essaie de voir si elle ne bouge pas. Et si on voit qu'elles sont capables de bouger, c'est clair, c'est qu'elles ne sont pas la roche mère. On continue encore à creuser. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé la roche mère. Et quand on la trouve, on teste avec des dynamites, toutes sortes de choses. On voit qu'elle est solide. Alors on commence à poser le pont. Si les gens découvrent que la roche mère est trop en profondeur et qu'ils n'ont pas le budget nécessaire, que ça va coûter trop cher de la retrouver, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver un autre rocher qui savent qu'il bouge et vont faire une prévision. Ils sentent que bon, ce pont-là, dans 20 ans, il va tomber. Donc, vous allez rouler. Et dans 20 ans, ils prennent des précautions. Vous ne passez plus sur le pont. Ils vont aller soit refaire de nouveaux travaux et puis replacer la fondation parce qu'il est trop difficile de trouver la roche mère. Et ça va coûter plus cher de creuser la roche mère que de faire des prévisions sur 20 ans. Amen. Voilà. Et c'est un peu ce que Jésus dit ici, que lorsque quelqu'un bâtit sur le roc, sa maison est inébranlable. Amen. Alléluia. Avoir une vie chrétienne de victoire, c'est bâtir sur le roc. C'est arrivé à trouver dans votre vie le rocher, la roche mère, qui est le Christ. Amen. Et ça, vous la trouvez que si quelqu'un entend ces paroles et les met en pratique, si c'est bon à les écouter, à les entendre, il va construire une fausse bâtisse. Et elle va finir par s'effondrer. Et il dit bien sûr que si quelqu'un entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Vous savez, c'est tout de même une maison qui est bâtie. C'est tout de même une maison qui est bâtie, mais elle va s'effondrer. Et la fondation, vous savez, c'est la partie de la vie, c'est la partie dans une bâtisse que vous ne voyez pas. Nous sommes dans une maison et personne ne voit la fondation. On ne juge une maison que par ce qu'on voit de l'extérieur. On ne juge la beauté d'un pont ou d'un édifice que par ce qui est extérieur. Mais toute la solidité de cet édifice dépend d'une chose, la fondation. Alléluia. Quand Dieu parle de fondation, c'est ce qui est dans votre cœur. Ce qui s'est passé en vous. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas voir. Alléluia. Vous pouvez avoir beaucoup de manifestations extérieures. Chanter, danser. Vous pouvez avoir une belle maison construite de l'extérieur. C'est celui à voir. Quelqu'un qui a une bonne fondation et quelqu'un qui a une mauvaise fondation peuvent construire à l'extérieur les mêmes maisons. Et même quelqu'un même qui n'a pas une bonne fondation peut construire quelquefois une maison plus belle, marbrée, tous les endroits avec de l'or partout, les poids, tout. C'est beau à voir. Et quand vous rentrez, vous dites, voici la plus belle maison. Et quelqu'un peut-être qui a pris le temps de faire la fondation va construire une maison très simple. Mais quand le vent va venir et quand les problèmes viendront, cette vie apparemment belle et glorieuse va s'effondrer. C'est ainsi que vous voyez des grands serviteurs de Dieu qui ont eu des ministères extraordinaires, qui ont drainé du monde, utilisant tout ce qu'on peut pour drainer du monde, mais qui intérieurement n'étaient pas fondés en Christ. Alléluia. Et lorsqu'il commence à rencontrer la gloire, beaucoup faiblissent. Ils meurent à cause de l'amour de l'argent. Ils abandonnent le Seigneur. Ils restent dans le ministère. C'est rare que quelqu'un qui ait du succès dans le ministère rétrograde. Apparemment. Parce que la maison extérieure est ce qui le fait vivre. Et ces personnes abandonnent l'évangile. La maison est tombée. Peut-être pas devant les hommes, mais cette maison est morte. N'a plus de vie. Parce que ces hommes n'ont plus de vie en eux. Ils ont faibli face à l'argent. Ils ont faibli face aux femmes. Face au plaisir, face au sexe. Et beaucoup abandonnent la main du Seigneur. Pourquoi? Parce que leur maison n'était pas fondée sur le roc. Le plus important, ce n'est pas ce que vous allez bâtir à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est négligeable. Mais si vous n'avez pas une bonne fondation, comme le déclare le Seigneur ici, vous serez enlevé. Vous ne tiendrez pas. Alléluia. Et c'est quelque chose qui doit se passer dans votre cœur. La vie chrétienne victorieuse, c'est quelque chose dans le cœur. Que personne ne voit. Que personne ne regarde. Une transformation intérieure profonde. Vous pouvez chanter à la chorale, vous pouvez danser, vous pouvez être un grand prédicateur. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour la bâtisse extérieure, pour ce que tout le monde voit. Mais Dieu sait où est votre fondation. Parce que personne ne considère la fondation, mais la solidité d'une maison dépend de la fondation. Alléluia. Non pas de la beauté extérieure. Gloire à Dieu. Être un chrétien de victoire, c'est un chrétien bâti sur le roc. Alors comment bâtir sur le roc? La première des choses, pour parler de vie chrétienne victorieuse, commence par la conversion. L'engagement avec le Seigneur. Beaucoup de gens ne tiennent pas dans leur marche avec Dieu parce que leur engagement avec Christ est faux. Ils peuvent venir à l'église, apparemment danser, chanter, mais ils ne tiendront pas parce qu'ils ne se sont jamais réellement convertis. Alléluia. Nous voyons un exemple dans le livre de Jean, le chapitre 8, à partir du verset 30. Nous ne lirons pas tout le passage, il est assez long, jusqu'à la fin du chapitre. Je lis seulement verset 30, verset 31. Je lis. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Notez bien, Jésus parlait de la sorte et il y a plusieurs personnes qui ont cru en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Nous sautons, partons verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham puisse, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre que les Juifs qui ont lapidé Jésus, là, sont les mêmes Juifs du verset 30. Il a dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ces Juifs-là ont cru en lui. Alléluia. Il dit, plusieurs crurent en lui. Et il a dit très bien, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il n'a pas parlé à d'autres personnes. Donc, il les a regroupés. Vous, les Juifs qui croyez en moi, écoutez maintenant ce message. Mais à la fin de la prédication de Jésus, les Juifs qui avaient cru en lui ont pris des pierres et ont commencé à lapider Jésus. Pourtant, ils avaient cru en lui. Beaucoup de gens croient en Jésus. Généralement, je dis, ils acceptent Jésus-Christ comme le Sauveur. Non, Jésus-Christ comme le Seigneur, parce qu'il y a une différence. Alléluia. Tout le monde accepte, aime accepter Jésus comme le Sauveur. Jésus le Sauveur, c'est celui qui guérit des maladies. Jésus le Sauveur, c'est celui qui est capable de vous faire prospérer. Jésus le Sauveur, c'est celui qui vous sauve de vos situations. Jésus le Seigneur, c'est celui qui est le Maître. Et beaucoup de gens n'acceptent pas Jésus comme le Maître. Mais ils aiment le Sauveur. Qu'ils viennent les sauver. Mais pas qu'ils viennent les diriger. Alléluia. Et ces gens ont accepté Christ. Et vous voyez, quand vous continuez, Jésus va leur dire qu'ils sont des esclaves. Parce que dans la maison de Dieu, donc, vous avez ces deux types de personnes. Vous avez les enfants qui deviennent des filles. Et vous avez ce qu'on appelle les esclaves. Les esclaves sont ceux qui viennent à l'église, qui croient en Jésus. Qui croient qu'il est Seigneur. Donc qui croient qu'il est Sauveur. Ils savent aussi qu'il est Seigneur, mais ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur. Ils viennent à l'église, ils ont cru en Jésus, ils savent qu'il est capable de faire des miracles et des prodiges. Ils croient simplement comme ces Juifs. Et les esclaves, le Seigneur dit dans ce passage que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils demeure toujours. Parce que les esclaves finissent toujours par rétrograder. Ils finissent toujours par abandonner la main de Dieu. Ils ont l'apparence de la conversion. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être chrétien.
Tu as besoin absolument de naître de nouveau. Et on m'a raconté une histoire, peut-être que vous l'avez déjà lue, qui parle d'un bouc qui voulait devenir un lion. Vous avez déjà lu ça? Le bouc voulait devenir un lion. C'était un bouc qui était dans une forêt, il avait un ami, il avait pour meilleur ami un singe. Et il aimait les lions. Il avait voulu, il regrettait d'être né bouc. Il souhaitait vraiment être un lion. Il est parti rencontrer son ami le singe et lui dit, singe, je veux être un lion. Le singe dit, mais c'est très compliqué. Il dit, fais un effort, il faut que je sois un lion. Le singe lui dit, tu sais, les lions ont une démarche majestueuse. Toi, tu marches, vous voyez comme les boucs marchent. Et ils sont entraînés pendant des mois et le bouc est arrivé à marcher comme un lion. Le bouc lui demande, suis-je devenu un lion? Le singe lui dit, non pas encore, tu sais, les lions, ils balancent leur queue de façon majestueuse. Toi, tu vois, tu balances ta queue trop rapidement. Le bouc va s'entraîner pendant des mois et va arriver à mouvoir sa queue comme un lion. Il va dire, suis-je devenu un lion? Le singe dit, non, il te manque quelque chose. Les lions rugissent. Toi, tu belles. Après plusieurs entraînements du bouc, miracle, il va arriver à rugir comme un lion, à marcher comme un lion, à avoir un mouvement de queue comme un lion. Il se croit un lion. Il se balade donc dans la forêt, il rencontre la girafe. Rugit, marche, remue la queue. Et la girafe n'est pas effrayée. Elle demande au bouc, mais qu'est-ce qui t'arrive? Le bouc lui dit, mais tu ne te rends pas compte que je suis en face de toi un lion. Tu dois fuir. La girafe dit, mais tu n'as rien à faire, toi. Il repart donc voir son ami le singe. Il dit, voilà, les animaux de la forêt n'ont pas fui devant moi. J'ai rugi pourtant. J'ai marché comme un lion. J'ai balancé ma queue comme un lion. Le singe dit, il te manque une chose. Il te manque, pardon, deux choses. Premièrement, il faut qu'on signale que tu es un lion. Donc, ils vont lui écrire un grand écriteau, lion. Il va attacher la corde sur son cou, lion. Il va lui dire, deuxièmement, il y a une chose qui est très importante, mon ami Bouc, c'est que le lion est un animal communautaire. Les lions vivent ensemble. Il faut que tu ne peux pas être un lion si tu n'es pas avec les lions. Alors, notre Bouc va aller vers les lions pour retrouver sa famille avec sa grande pancarte lion. Il s'arrête sur la montagne et voit dans la plaine une famille de lions. Alors sur la montagne, il rugit. Les lions le regardent étonnés. Mais qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? J'arrive dans ma famille. Il descend de la montagne. Les lions disent, mais voici de la nourriture qui vient à nous. Et notre bouc arrive auprès des lions. Malheureusement pour lui, donc il est mangé. Et le bouc meurt. Les lions n'ont pas mangé seulement la pancarte lion. Et la leçon à tirer, c'est que, vous savez, on ne peut pas faire semblant d'être chrétien. Alléluia. Beaucoup de gens aiment la vie chrétienne. Alors ils font tout pour marcher comme des chrétiens. Ils s'habillent comme les chrétiens. Pour usir comme les chrétiens, ils parlent comme les chrétiens. Ils ont des langages chrétiens. Oh, Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous allez beau parler comme des chrétiens, vous ne serez pas chrétien. Vous pouvez démarcher, marcher comme les chrétiens marchent. Vous habillez comme les chrétiens s'habillent. Mais cela ne fera pas de vous un chrétien. Alléluia. Les gens trouvent aussi que ce n'est pas suffisant. Alors, pour montrer qu'ils sont de bons chrétiens, ils vont coller partout des écriteaux sur leur voiture, zone du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. Attention, chrétien, zone, poisson, Jésus-Christ est Seigneur, dans toute leur maison. Mais même si vous avez tous les autocollants du monde, même si vous avez la Bible avec vous à la maison, 30 000 Bibles, ça ne fera pas de vous un chrétien. Alléluia. Et si vous ne faites attention, vous serez dévoré par les flammes de l'enfer. On ne peut pas faire semblant d'être chrétien. Pour devenir un lion, il faut naître lion. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Vous ne pouvez avec votre première nature entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu a dit, pour être mes enfants, il faut naître enfant de Dieu. Tu dois naître de nouveau. C'est le seul chemin. Venir à l'église tous les dimanches, participer, chanter, danser ne fera jamais de toi un chrétien. Ça fera jamais de toi un fils de Dieu. Tu ne peux jamais avoir une vie chrétienne de victoire, avoir la vie de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Si quelqu'un est là qui n'a pas accepté Jésus, qu'il donne ce matin sa vie au Seigneur. Tu as besoin de connaître la nouvelle naissance. Tu pourras fréquenter toutes les églises, assister à toutes les campagnes, être là quand tous les grands hommes de Dieu viennent à Paris. Mais ça ne fera jamais de toi un enfant de Dieu. Jamais. Le bouc ne peut pas devenir lion. Son problème, c'est qu'il n'est pas né lion. Ton problème, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Donc on ne peut pas avoir de vie chrétienne victorieuse si on ne passe pas par la nouvelle naissance, si on ne naît pas de nouveau. Après la nouvelle naissance, pour dire encore quelques mots sur la réelle conversion, comme je dis, je vais aller vite sur les différentes étapes de la vie chrétienne de victoire. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne vit pas dans le péché. Si vous êtes esclave du péché, sûrement Christ ne vous a pas délivré. La Bible dit que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne vous y trompez pas. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Beaucoup de gens se sont convertis ou bien ont cru en Jésus parce qu'ils ont appris que Jésus donne le mariage. Ces gens-là ne peuvent pas avoir une vie chrétienne de victoire. Ils viennent à Christ parce qu'ils attendent. Il paraît que lorsqu'on prie dans l'église, on a un mari. C'est vrai que Jésus bénit le mariage et Christ donne le mariage. Mais ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Alléluia. Alors quand ces gens-là viennent à l'église, et quand les gens se donnent, après 5 ans, si le mari n'est pas venu, soit ils ne viennent pas à l'église, soit ils commencent à vivre dans l'adultère ou dans l'impudicité. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est une fausse conversion. Si vous n'êtes pas réellement converti, vous ne pouvez pas demeurer dans la foi. Vous pourrez faire semblant. On va vous dire peut-être à l'église ici, vous savez, si vous voulez que Dieu vous bénisse, ne commettez pas l'adultère, ne commettez pas l'impudicité. Tu pourras arrêter l'impudicité pendant un moment. Comme quelqu'un qui va voir un féticheur ou un marabout, il est prêt à tout faire pour avoir ce qu'il recherche. Beaucoup de gens viennent à Jésus parce qu'ils veulent ce que Jésus peut leur donner et non pas ce que Christ est. Et vous voyez beaucoup de nos assemblées aujourd'hui, beaucoup d'églises, et on en trouve beaucoup en Europe, qui sont remplies par des vendeurs d'illusions. Oh, venez. Tu vas trouver tout à l'heure ton mari. Actuellement, on a un homme à Abidjan qui draine énormément du monde à cause de toutes les promesses bizarres qu'il fait aux gens. Il donne aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je sais que le Seigneur bénit. Je sais que Jésus sauve. Mais si vous vous convertissez de telle façon, d'une telle façon, on peut se convertir parce qu'on a entendu un témoignage. Venir à Christ peut-être, mais lorsqu'on vient, venir à Christ peut-être parce que il a fait un miracle, on a marché, un paralysé, on a vu quelque chose d'extraordinaire. Et on décide que ce Seigneur qui a fait cette œuvre, moi, je décide de marcher avec lui. Pas, je vais profiter de lui. Alléluia. Alléluia. Pas, je vais profiter de lui. Et beaucoup de gens se convertissent de telle façon, c'est pourquoi ils ne peuvent pas évoluer avec le Seigneur. Ils font l'effort d'avoir une vie de sanctification. Ils font l'effort, comme le bouc, de devenir lion. Ils font l'effort, même ils peuvent même aller jusqu'à ne plus pécher. Ils peuvent même aller jusqu'à ne plus mentir. Parce qu'ils se disent que ne pas mentir, ne pas voler, leur assure du boulot, leur assure le mariage, leur assure beaucoup de choses. Mais, en fait, ils n'ont jamais accepté le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La réelle conversion. Pourquoi tu es venu au Seigneur? Pourquoi tu lui as donné ta vie? Qui as-tu accepté? Jésus le Sauveur ou Jésus le Seigneur? Es-tu un fils, un enfant ou es-tu un esclave? La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 4 à partir du verset 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien de l'esclave. L'esclave ressemble beaucoup à l'enfant. Il fait partie de ceux qui croient. Il ressemble beaucoup à l'enfant. Mais il n'est pas né de nouveau. Pour avoir une vie chrétienne de victoire, il faut revoir le mobile, la raison pour laquelle tu donnes à Jésus. Amen. Si tu veux avoir une vie chrétienne en dents de scie. Parce que lorsque le Seigneur commence à te décevoir, lorsque tu vas passer par ton temps de désert, tu vas rétrograder. Tu vas finir par abandonner la main de Dieu. Amen. Ta maison n'est donc pas bâtie sur le roc. Lorsque vous avez fini de vous donner au Seigneur, d'accepter le Seigneur Jésus, lorsque tu es né de nouveau, tu seras confronté à certaines autres choses. Ce que j'appelle vaincre la chair. Amen. Alléluia. Ce que j'appelle vaincre la chair. Je vais arriver tout à l'heure, je vais insister sur un élément particulier aujourd'hui, c'est surtout sur le vaincre le moi. Amen. Mais avant d'arriver à vaincre le moi, il faut parler de vaincre la chair. Quand vous lisez le livre de Romains chapitre 6, chapitre 7, nous n'avons pas l'occasion de le lire. L'apôtre Paul, ensuite en Romains chapitre 7, montre la force et le pouvoir de la chair. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir une vie chrétienne de victoire à cause de la force de leur chair. Ils n'arrivent pas à vaincre les désirs de la chair. Ils ont envie de jeûner. La chair dit non. Moi, je mange à midi. Ton affaire de jeûner jusqu'à 18h, je ne suis pas là-dedans. Donc, à midi, la chair te dit, je suis l'éternel ton Dieu. Va et mange. Ton jeûne est terminé, tu es déjà exaucé. Ils n'arrivent pas à vaincre la chair. Je ne parle pas de ceux qui ont la faiblesse de la chair qui les amène à vivre constamment dans le péché. Là, c'est autre chose. Là, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que quand tu nais de nouveau, tu as en toi une force qui t'aide à vaincre les désirs de la chair. Alléluia. La chair au premier degré, c'est-à-dire les désirs qui sont cités en Galates chapitre 5. Amen. L'impudicité, l'adultère, le mensonge, le vol, tout ça. Mais quand même tu auras fini avec tes péchés, il va se trouver d'autres éléments. Tu vas voir que ta chair est faible. Alors, comment vaincre la chair? Je vous avais cité la dernière fois le passage de Genèse chapitre 3 de la chute de l'homme. Je l'appelle brièvement. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, Dieu va prononcer des paroles sur l'homme. Il va dire sur la femme, sur le serpent, c'est quand tu seras maudit en tout le bétail, tu vas ramper sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et Dieu a dit plus bas à l'homme, homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ok? Et je vous explique la dernière fois qu'en fait, quand Dieu dit au serpent, tu vas manger la poussière, c'est dédié au serpent, qui est le diable, tu vas manger l'homme. Serpent, tu manges la poussière, homme, tu es poussière. Ok? Donc, Dieu disait au Satan, au diable, quel serpent, serpent, je te donne le pouvoir de manger l'homme charnel. Parce que ce qui est poussière, ce n'est que la partie chair de l'homme. Le diable a reçu de Dieu le pouvoir de détruire, de manger la chair. Donc toute personne qui marche selon la chair est la nourriture du diable. Amen. Donc les païens lui appartiennent déjà. Voilà. C'est son garde-manger. Si tu vis selon les désirs de la chair, tu es disponible pour le diable. On ne peut rien faire. C'est ce que Dieu a dit à Satan. Par contre, si tu nais de nouveau, tu rentres dans la descendance de la femme, car il a dit à la femme, femme, ta descendance écrasera la tête du serpent et celle qui le sera dans la main. Ta descendance va écraser la tête du serpent. Et cette descendance qui écrase la tête du serpent, c'est tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus qui sont nés de nouveau. Amen. Tu as besoin de naître de nouveau. Mais non seulement lorsque tu seras, quand tu seras né de nouveau, tu as besoin d'appliquer les principes et les éléments qui vont te donner une vie chrétienne de victoire. La première des choses, vous la trouvez donc quand vous lisez ce passage là, Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, Romains chapitre 8. Paul parle donc de la faiblesse de la chair. En Romains chapitre 6, il donne la victoire que vous donne la foi. Et en Romains chapitre 8, il va parler de la victoire que donne le Saint-Esprit. Je vais dire deux mots rapidement sur ces deux éléments avant d'arriver sur vaincre le moi. Car c'est sur quoi je vais insister ce matin. Le premier élément pour vaincre la chair pour tout enfant de Dieu, c'est d'abord de croire. De croire que votre chair a été crucifiée, selon Romains chapitre 6, c'est tout le chapitre 6. C'est croire que tu es mort. Amen. Alléluia. Si vous n'avez pas la foi dans ce que Dieu a fait en vous, il vous sera difficile de surmonter les faiblesses de votre chair. Ça veut dire quoi? La Bible dit que notre chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Elle est morte. Elle est morte. Il faut croire. Même si tu as l'impression que ta chair est vivante. Vous savez, la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Dans la vie chrétienne, comme Hébreux 10, 38 le dit, mon juste vivra par la foi. N'attendez pas de voir. Dites, prononcez ce que Dieu dit avant de sentir. Crois que ta chair est morte. Constate qu'elle est morte. Peu importe ce que tu ressens. Applique dans un premier temps la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Avant qu'Abraham n'eût l'enfant de la promesse, Dieu l'appelait Abraham. Et c'est là que Dieu l'a dit, tu vas t'appeler Abraham avant qu'il ne voie l'enfant. Ça veut dire père d'une multitude. Dieu a appelé Abraham de ce qu'il avait déjà promis. Amen. Le Seigneur dit que tu as été crucifié, tu es mort avec Christ lorsque tu as cru en lui. Donc ta chair est morte. Dis ma chair est morte. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que ta chair est morte? Qu'elle n'a plus de pouvoir. Qu'elle est vaincue. et que tu es plus que vainqueur. Dis-lui. Il faut non seulement le dire, mais il faut le dire, mais il faut l'admettre. Il faut le savoir. Tant que vous allez croire que votre chair est trop vivante, elle va vous dominer. Acceptez le verset. Je vous demande, n'attendez pas de ressentir avant d'accepter le verset. Acceptez le verset avant de ressentir. C'est comme ça que la foi fonctionne. Amen. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi rend présente, selon certaines versions, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère. C'est concret. Je l'ai. J'ai cette victoire. Amen. Alléluia. Jésus s'arrête sur l'eau. Il dit à Pierre. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne sur l'eau en marchant. Jésus dit, quand Pierre commence à marcher, le vent souffle. Au lieu de regarder à la parole de Christ, il a regardé au vent. La Bible dit que Pierre a coulé. Jésus l'a soulevé, il a dit, pourquoi as-tu douté? Vous savez, ce n'est pas parce que Jésus vous a dit une parole. Là, c'est Jésus qui a parlé. Hein. Il a dit, Pierre, viens. Mais Pierre a fait quelque part, il a coulé. Si vous doutez, vous allez couler. Si vous doutez, vous allez couler. Et tu vois, mais Dieu a dit. C'est que Dieu a dit. Est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il obtiendra quelque chose de Dieu. Frère, la foi est extrêmement importante dans la vie chrétienne de victoire. Si vous ne croyez pas ce que Dieu dit, que vous croyez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, vous allez mourir. La chair a déjà été livrée au diable. N'écoutez pas la chair. Écoutez Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez Dieu. Le deuxième élément pour vaincre la chair, en plus de la foi, je vais dire encore quand même deux petits éléments encore sur la foi. Vous savez, la foi, c'est tout ce qui vous aide à obtenir les choses de Dieu. La sanctification est une très bonne chose. La sanctification, si vous n'avez pas la sanctification, Dieu ne va pas vous écouter, il ne peut pas vous bénir. Mais si vous avez la sanctification, que vous n'avez pas la foi, si vous demandez des choses à Dieu, vous n'obtiendrez rien. Il y a des chrétiens qui ont une vie de sanctification, mais qui n'obtiennent rien de Dieu. Parce qu'il ne croit pas. Il dit, ne vous imaginez pas que vous recevrez une chose de Dieu si vous n'avez pas la foi. Ayez la foi. La foi n'est pas compliquée. C'est pas compliqué. N'essayez pas de vous concentrer tout ça. C'est pas compliqué. Si vous vous concentrez, c'est la preuve que vous n'avez pas la foi. Voilà. La foi, ce n'est pas la ferme persuasion des choses qu'on espère. Ce n'est pas la ferme persuasion. C'est une simple confiance. C'est simple. Je suis convaincu. Ça va venir. Un jour, j'étais reparti dans... je venais de voyage, j'étais reparti dans mon église à Abidjan. Et toujours là, j'allais prier pour les malades. Et particulièrement ce jour, j'ai prié pour ceux qui avaient mal aux yeux. Ceux qui portent des lunettes. J'ai dit, vous savez les frères, aujourd'hui on va prier. Je vais prier pour ceux qui ont des lunettes. Est-ce que vous croyez? Oui, Jésus est vivant, nos yeux seront guéris. Alors j'ai prié, j'ai fini de prier pour les frères. J'ai dit, bon. Maintenant que tous ceux qui ont des lunettes enlèvent leurs lunettes et les jettent. La Bible dit, si tu demandes une chose à Dieu, que tu crois que ce que tu as dit va arriver, alors tu verras ces choses-là s'accomplir. C'est pas compliqué. Il faut savoir que ça va venir. Un point, un trait. Alors si tu sais que tu es guéri, je dis, jette les lunettes. Il y a un frère, c'est un des pianistes, il a pris les lunettes, il a jeté. D'autres ont jeté. Il y a les tontons, les tantes, etc. qui souriaient. Or ils ont dit tout à l'heure, on croit qu'on est guéri, alléluia.
Je le vois, je dis, mais toi tu es un ancien quand même. Tu ne crois pas? Et je l'ai exhorté. Il a eu tellement la foi, il a pris ses lunettes, il les a cassées. Et puis il a jeté. Tous ceux qui ont jeté les lunettes ont été instantanément guéris. Et vous savez, c'est pas ce jour, c'est pas que Dieu m'avait donné une révélation pour dire, va et prie comme ça aujourd'hui. La foi, ce n'est pas une affaire de ce que Dieu vous a dit, c'est ce que vous croyez. Vous savez, arrêtez de demander à Dieu. Gens qui disent, on ne demande pas à Dieu ce que Dieu veut, on demande à Dieu ce qu'on veut. Quand vous priez, ne confondez pas votre détermination. Vous savez, si vous voulez avoir la foi, il faut que vous soyez déterminé. Il faut que vous soyez des gens résolus. Demandez à Dieu des choses. Bien sûr, vous n'allez pas demander n'importe quoi. Comme par exemple une femme qui vient nous voir, je vais demander, bon, j'aime un monsieur, mais il est marié, priez pour que sa femme meure, pour qu'il est marié. Bon. Ça, des choses comme ça, là même toi-même tu es maudit. Parce que tu es une sorcière, c'est la sorcellerie. Mais si vous demandez une chose à Dieu et que vous croyez que cette chose-là est normale et légitime, attendez-vous à avoir le miracle. Si vous doutez, je vous dis que vous n'obtiendrez rien. Les chrétiens n'évoluent pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Il suffit que la bénédiction tarde un peu. Ils se sont dit, est-ce que c'est le plan de Dieu? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu? Pourquoi? Un jour, Jésus est venu s'arrêter devant un figuier. La Bible déclare que ce n'était pas la saison pour donner le fruit. Et Jésus voulait voir un fruit. Vous savez, ce miracle-là, c'était un miracle de démonstration de Jésus de puissance. Quand même, quelqu'un qui a vécu près de 30 ans dans une région, est-ce qu'il ne connaît pas la saison des figues? Non, non, sois honnête. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays pendant 30 ans et ne pas connaître la saison des fruits. Et le figuier, c'est un arbre qui est fréquent en Israël. Alors il savait très bien ce qu'il faisait. Il a regardé l'arbre et puis il a maudit. La Bible dit que l'arbre a séché. Et c'est là les disciples ont posé la question, mais pourquoi ça s'est... Il dit, mais si vous dites quelque chose, croyez. Ce que Jésus a fait, dites-moi si c'était la volonté de Dieu. Est-ce que c'était prévu que l'arbre produise du fruit? Il a simplement dit et il a cru. Quand j'ai prié pour ceux qui avaient mal aux yeux, je n'ai pas prié parce que Dieu m'a dit. J'ai prié parce qu'il m'a dit que si je lui demande quelque chose, il n'a pas dit, si tu me demandes ce que moi je veux. Non, il dit, si tu me demandes ce que tu veux, que tu crois que cette chose-là va arriver, alors tu verras s'accomplir. Vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne croyez pas. Vous avez peut-être une vie de sanctification, mais vous ne vous attendez pas à voir les choses changer. Et vous ne vous attendez pas comment? Parce que quelquefois... Alléluia! Parce que quelquefois, vous êtes impatient. Vous êtes impatient. La chose va arriver, c'est certain. C'est certain. Jacques insiste, il dit, si tu doutes, ne t'imagine pas. Vous savez, dès que vous doutez, le miracle s'en va. Dès qu'on commence à vous poser la question, est-ce que tu as demandé à Dieu une certaine somme d'argent? Tu pries. Ton miracle est en train de venir. Si ça t'a, tu dis, bon, peut-être que, en train, je n'ai pas bien procédé, tu commences à réfléchir. Tu vas faire comme Pierre, tu vas commencer à marcher sur l'eau. Et subitement, tu vas commencer à couler sans t'en rendre compte. Vous savez, il y a deux façons de voir des miracles pour Dieu. Lorsque Dieu est le premier à prononcer une parole sur votre vie, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, ça va arriver. Ça n'a pas à voir avec le poids. Dieu te dit, demain je te bénis, je te donne 1 million. Tu peux te poser, oh Seigneur, est-ce que c'est vrai? Ah, est-ce que tu m'as vraiment dit ça? Vous savez, là c'est lui qui est le premier à te le dire. Ça va arriver que tu crois ou que tu ne crois pas. Ça n'a rien à voir. Maintenant, le deuxième cas, c'est quand vous êtes le premier à faire la prière, à faire la demande. Là, ce n'est pas Dieu qui vous a demandé. Il faut vous attendre à voir ce que vous avez demandé. Pour le cas de Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Pierre qui a dit au Seigneur le premier, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne sur l'eau en marchant. Jésus lui dit, viens. Donc, il n'a pas marché. Pierre s'est levé, pardon, il a commencé à marcher sur l'eau. Quand il a vu le vent, il a eu peur. Pas qu'il a douté, il a eu peur. La peur. La peur a suffi pour qu'il coule. Vous allez quelquefois prier, vous allez entendre Dieu vous dire, ma fille, je vais te donner ce que tu as demandé. Et le temps tarde et tu ne vois pas la chose arriver. Et tu commences à avoir peur. Ce que tu as demandé va disparaître. Tu ne l'obtiendras pas. Même si tu as entendu Dieu te dire, je vais te donner ce que tu as demandé. Si vous doutez, quand vous êtes le premier à demander, vous ne l'obtiendrez pas. Si c'est Jésus qui s'est arrêté sur lui et qui avait dit, Pierre, je veux te montrer que c'est moi. Viens. Pierre aurait pu descendre, trembler comme il voulait. Paniqué, il n'aurait pas coulé parce qu'il marchait sur la parole de Christ. Et c'est Jésus qui faisait la démonstration de foi. Amen. Donc faites la différence entre lorsque Dieu, vous n'avez rien demandé à Dieu, Dieu vous dit, demain je ferai ceci dans ta vie. Que tu crois que tu ne crois pas, ça va arriver. Mais quand tu te mets, tu dis, Seigneur, je vais atteindre un tel objectif. Il ne faut plus jamais douter. Lorsque tu doutes, ce que tu veux attendre va disparaître. Amen. Alléluia. Alléluia. Ayez la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Attendez-vous à voir des miracles. Sinon, vous allez vivre seulement que de grâce. Vous savez, la grâce et la faveur, ce sont des... Ça, même les païens ont quelquefois ça. Et tu es là. Il t'envoie de temps en temps. Mais c'est sporadique. Un jour, il y a un miracle. C'est là que tu verras les témoignages. Après, tu ne vois plus rien. Non. Hébreux 10, 38 dit, mon juif va par la foi. Ça, c'est la grâce, c'est la faveur. Ça n'a rien à voir avec ta foi. Dieu donne des cadeaux à tout le monde, de temps en temps. Et tu dis avoir un miracle une fois par an. La foi te donne d'avoir les miracles constamment, quotidiennement et toujours. Alléluia. Dieu veut que le juif vive par la foi. Après la foi, pour vaincre la chair, il faut que vous ayez donc cette foi. Vous avez besoin de ce qu'on appelle, vous avez besoin de la marche par l'esprit pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Il y a ce que j'appelle la vie de l'esprit, dont je n'en parlais pas aujourd'hui, mais quelques éléments quand même qui sont valables pour ceux qui sont nés de nouveau. Dès que vous vous donnez au Seigneur Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas du baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient avec vous. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu vous conduit. Et l'Esprit de Dieu qui est là dans votre vie, qui rentre dans votre esprit, qui vient dans votre esprit, a besoin d'être fortifié. Il y a beaucoup de choses à dire sur la marche par l'esprit, mais je vais citer cet élément-là, qui est important dans la vie chrétienne de victoire. Votre esprit en vous doit être fort. Si votre esprit n'est pas fort, il ne va jamais arriver à surmonter les pensées de la chair. Dieu peut vous faire 1000 promesses, mais si votre esprit est faible, il ne peut pas surmonter les pensées de la chair. Vous savez, physiquement, vous êtes presque certain. Quand vous me regardez, vous êtes sûr que je peux soulever sûrement cette chair. N'est-ce pas? Je peux la bouger, je peux même peut-être la prendre. Vous ne le direz pas pareillement pour un enfant, un tout petit enfant. Et vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui est très malade pendant des années, des mois, qui a maigri, peut soulever ça. Il a l'âge, il a peut-être la corpulence pour soulever ça. Il aurait pu le faire. Mais parce qu'il est affaibli, il ne peut pas soulever la table. L'esprit qui est en vous a besoin d'être fortifié. Vous savez, lorsque votre chair ne mange plus, lorsque vous jeûnez longuement, ce que vous étiez capable de faire, marcher, soulever des choses, vous ne pourrez pas le faire. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 17, Dieu dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour vaincre la chair, il faut pouvoir marcher selon l'esprit. Mais pour pouvoir marcher selon l'esprit, il faut pouvoir écouter et vivre l'esprit. Et une des choses, il faut que votre esprit soit fortifié. Je dis, c'est une des choses, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est un des éléments sur lesquels j'insiste particulièrement aujourd'hui. L'esprit, votre esprit mange, il se repose, il travaille, il vit. Oui. De la même façon que si vous ne nourrissez pas votre chair physique, vous êtes faible. Si vous ne nourrissez pas votre esprit, vous pouvez beau être né de nouveau, un esprit régénéré, mais parce qu'il est faible, il ne pourra pas faire, il ne pourra pas marcher dans sa destinée, il ne pourra pas faire ce que Dieu attend de lui, il devient faible. Et l'esprit mange. L'esprit mange quoi? L'esprit mange la parole. Alléluia. Et l'eau de l'esprit, c'est la prière. Jésus a dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous dis de façon littérale, prenez ça littéralement. La parole est une nourriture pour l'esprit. Il mange la parole. Dès l'instant où il ne mange plus de parole, il faiblit. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne médite pas, qui ne lit pas la parole de Dieu, ne peut pas avoir la victoire. Tu peux savoir qu'on ne doit pas mentir, mais tu vas mentir. Tu peux savoir, parce que tu ne peux écouter, qu'on ne doit pas tricher, mais tu vas tricher. Savoir qu'il ne faut pas commettre un péché ne vous donne pas la victoire sur ce péché. Mais l'esprit a besoin de la vie. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture. En fait, l'esprit vit de tout ce qu'il entend. C'est pourquoi il faut savoir ce que vous allez donner à votre esprit comme nourriture. L'esprit doit bien manger. Amen. Alléluia. Vous, dans cette église, vous êtes bénis. Vous avez de bons pasteurs cuisiniers de la parole. Amen. Non, vous êtes bénis. Amen. Qui savent préparer de bons repas et vous donner les bons repas. Il faut bien manger. Et je vous dis, si il y a quelqu'un qui est un restaurateur, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Vous avez des entrées, des plats de résistance, vous avez des desserts, vous avez tout. Vous avez des vitamines, il faut savoir les agencer. Si vous n'agencez pas les vitamines de la parole, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des manques, vous allez avoir des carences. Amen. Même quand vous lisez la Bible, d'abord, premièrement, il faut lire la Bible tout le temps. Il dit, médite cette parole jour et nuit. Évitez de faire jeûner l'esprit, s'il vous plaît. Faites jeûner la chair, mais l'esprit, laissez l'esprit manger. Alléluia. Lui, il ne rentre pas en jeûne. Il y en a qui font trop jeûner l'esprit. Des jeûnes d'Esther. 3 jours sans prier ni lire la parole. Ça, c'est horrible pour l'esprit. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une vie. L'esprit, il faiblit. Il maigrit. Même quand même vous allez commencer à manger la parole de Dieu régulièrement et puis avoir une vie de prière régulière, il faut que votre nourriture, la nourriture soit équilibrée. Oui, très équilibrée. Si elle n'est pas équilibrée, vous allez avoir des problèmes. On peut avoir l'esprit peut avoir le marasme. Vous connaissez les maladies de malnutrition, kwashiorkor. Tout ça, l'esprit peut avoir ça. S'il est saturé d'un certain type de nourriture, oui, vous avez différentes sortes de vitamines. Vous avez par exemple la vitamine d'exhortation à la prière, vitamine de sanctification. Moi, généralement, je suis un spécialiste de la vitamine sanctification. Mes deux vitamines préférées, l'amour et puis la sanctification. Oui, oui. Donc, je fais l'effort de mieux travailler les vitamines que Dieu m'a donné de communiquer au peuple de Dieu. Amen. Et généralement, chaque homme de Dieu a une spécialité, il a des vitamines qu'il communique. Alléluia. Mais pour que l'enfant de Dieu soit équilibré, il a besoin de toutes les vitamines. Amen. Et il mange, il est équilibré. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous écoutez des messages, veuillez équilibrer. De temps en temps, écoutez des messages de sanctification, des messages qui vont fortifier votre vie de prière, qui vont fortifier votre détermination, votre zèle, votre vision. En tout cas, il y a plusieurs vitamines. Alléluia. Je me suis rendu compte de ce que c'est que des chrétiens saturés. Et je vous donne un élément en ce qui concerne la parole. Comme je dis, la parole est vraiment une nourriture. Vraiment. Quelle est la caractéristique d'une nourriture, même la nourriture physique? Vous la consommez, elle va dans le ventre, vous la rejetez, et puis elle produit un effet dans votre corps, et puis après l'effet s'arrête. C'est comme ça que la parole de Dieu se comporte. Vous ne pouvez jamais dire que vous avez fini d'écouter un message. Ce n'est pas possible. Vous allez l'entendre, mais vous avez toujours besoin de le réécouter, un temps après. Tout va dépendre de la capacité de digestion de chaque individu. Ça varie d'une personne à une autre. Amen. Il y en a, ils oublient tellement vite les messages qu'ils doivent réécouter certains messages chaque fois par mois. Ils doivent reprendre cette vitamine une fois par mois. Parce que lorsque vous arrêtez de la prendre, vous commencez à faiblir. Par exemple, je prends la vitamine sanctification. Vous pouvez être un bon chrétien. Vous voulez marcher avec le Seigneur. Quand vous manquez de vitamine sanctification, vous commencez à devenir très léger dans votre comportement. Vous commencez à voir que dans votre langage, vous devenez léger. Vous allez voir que votre langage, vous commencez quelquefois. Vous êtes au bord de mentir. Quand vous commencez à sentir ça, c'est que vous manquez de vitamines sanctification.
Alléluia.
Gloire à Dieu. Parce que ce qui va se produire, vous allez vous rendre compte que si vous arrivez à l'église dans cette période et que vous écoutez quelqu'un qui vous parle de la sanctification, dès que vous sortez, personne ne peut vous faire tomber dans le péché. Ce sera très compliqué. Pas qu'auparavant, vous ne saviez pas que mentir n'est pas bon. Tu sais que mentir n'est pas bon, mais tu vas mentir quand même. Mais quand tu as fini d'entendre un tel message, il y a une force en toi qui t'empêche même de mentir. Quand elle n'est plus là, tu vas retomber, tu vas faiblir. Il y a des hommes de Dieu, quand vous les écoutez, ils vous communiquent la vie de prière. Quand vous les écoutez, ils ont envie de jeûner et prier. Ils vous réveillent, ils vont vous booster. Ta vie de prière va passer de 30 minutes à une heure de temps de communion. À un moment donné, tu vas voir que ça commence à faiblir. Quand ça commence à faiblir, retourne, prends un peu de vitamine, prière. Pour relever ta prière. Amen. C'est très important. Ne dis pas non. Ce message-là, je l'ai déjà entendu. En fait, le repas, la vitamine est finie. Tu l'as déjà entendu. Tu as la connaissance du goût dans la bouche, dans ton esprit. Tu sais ce qu'il dit. Mais il n'y a plus de vie. La vie qui était produite par le message est finie en toi. Donc, tu as la connaissance, mais tu n'as pas la vie. Alléluia. Comme tu connais le goût du riz. Mais si tu ne manges pas, si tu connais le goût du riz, que tu n'as plus mangé du riz. Tu n'as plus mangé le riz quand même. C'est parce que tu connais le goût des frites que tu n'as plus mangé les frites. Tu as dit non, je connais le goût des frites. Donc je mange plus. En te prenant encore un autre plat. Oh non, je connais, j'ai déjà goûté ça. C'est fini. Je le connais, j'ai déjà écouté cette prédication. Je connais. Hein. Voilà. Donc c'est plein de connaissances, mais aucune vie. La parole est une nourriture. Prenez-la ainsi. Amen. Et pour boire, c'est la prière. Amen. Vitaminé avec certains styles de prière, des prières d'adoration, de louange, ça qu'est d'autres choses. Là, ce sont les colorations, ce sont des petits jus. Vous voyez la flûte. Pour agrémenter, vous pouvez prendre un peu de jus d'orange, un peu dans d'eau. Vous savez, ça c'est les différents types de prières, l'intercession, la supplication. La Bible dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Prières d'intercession, prières de supplication, prières de combat. Tout ça, on en a besoin. Un chrétien qui ne fait pas de prières du combat contre les démons, c'est pas très bien. Un chrétien qui ne sait pas supplier Dieu, qui ne sait pas intercéder, vous voyez, les liquides qu'il prend sont trop, c'est monotone, c'est pas bon. Ok? Il faut donc aussi équilibrer votre alimentation au niveau de ce que vous buvez dans la prière. Amen. Faites effectivement toutes sortes de prières comme le dit le Seigneur. Ça fortifie l'esprit. Alléluia. Et quand votre esprit est fort comme ça, vous allez voir que vous arrivez facilement à surpasser les désirs de la chair parce que l'esprit est dans sa dimension vraie. Parce qu'il est vainqueur. Parce que l'esprit, il vit dans la sainteté. Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur. Parce qu'il aime Dieu, parce qu'il aime prier. Il aime jeûner, il aime veiller, il aime tout ça. Mais si ses vitamines manquent, il va aimer mais ne pourra pas. Il va savoir que c'est bien, mais n'aura pas la force de le faire. Alléluia. Ouvrons l'oubli dans le livre de Matthieu. Alléluia. Le pasteur me demande d'insister sur certains autres points. Gloire à Dieu. Donc du coup, là, tu mets en hésitation, mais là, tu... Hein? Bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais continuer. On va revenir sur ce point. Okay. Lisons Matthieu, chapitre 16. Verset 13. Il est dit, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, dans ce passage, nous voyons deux choses. L'apôtre Pierre, qui aime beaucoup le Seigneur, qui aime beaucoup Dieu, qui aime beaucoup Jésus, et qui arrive donc vers Jésus, Jésus pose la question à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Les uns et les autres vont lui donner différentes réponses. Pierre, à son tour, dit non. Il dit, Seigneur, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la réponse a touché le cœur de Jésus. Jésus dit, tu sais, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je vous ai parlé, j'ai cité quelques éléments sur la victoire de la chair. Mais Jésus dit que il y a deux éléments qui ne doivent pas te donner des révélations. La chair, en quelque sorte, et puis le sang. Amen. Le sang. La chair et le sang. Ce sur quoi je voulais insister, c'est ce que je vais dire maintenant. Pour la plupart des chrétiens, parce que ce que je viens de dire, moyennement, un bon nombre de chrétiens, s'ils sont vraiment convertis, arrivent à appliquer ça. Bonne vie de prière, bonne vie de consécration, ils lisent régulièrement la parole de Dieu. Ça va. Mais quand même, ils arrivent à avoir une vie chrétienne en dents de scie. Le second problème pour la vie en dents de scie vient en fait de l'âme. Vaincre la chair, c'est bon. Mais avoir la maîtrise de l'âme, de contrôler les pensées de l'âme, c'est extrêmement important dans la vie chrétienne de victoire. Vous aurez une vie chrétienne en dents de scie. Et ça peut même vous amener à rétrograder si vous ne comprenez pas ce que Jésus a dit à Pierre ici. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le sang? Quand vous lisez Lévitique 18, il est dit que l'âme se trouve dans le sang. Donc en fait, il parle plutôt de l'âme. Ce n'est ni la chair et l'âme, c'est pas la chair et l'âme qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que l'âme est capable de vous faire faire des choses qui peuvent paraître spirituelles, mais qui ne sont pas le plan de Dieu. Les désirs de la chair sont manifestes, comme on le dit dans Galates chapitre 5. Il dit, nous les connaissons. La chair nous entraîne à mentir, à tricher, à haïr, à détester, à nous comporter mal, à nous irriter, à nous mettre en colère. Et ça, nous le connaissons. Quand nous commettons ces choses, nous nous repentons. Nous demandons à Dieu pardon parce que nous savons que ce que nous avons commis n'est pas bien. Le problème de l'âme et du sang, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Ces pensées, quelquefois, ressemblent beaucoup à celles de Dieu et nous séduisent et sont capables de nous amener dans l'erreur. Au niveau de la délivrance et de la victoire sur le moi, parce que c'est l'âme en fait que j'appelle le moi, en fait, dans la réalité, le moi en fait partie de l'âme. C'est partie de l'âme, mais bon. En ce qui concerne la victoire sur le moi, c'est là que trébuchent la plupart des chrétiens, des réels chrétiens, au niveau du moi. La chair, généralement, si vous êtes vraiment né de nouveau, et vous voulez changer, vous arrivez à régler ça en quelques mois, vous allez avoir peut-être quelques derniers détails, quand tu te convertis, la cigarette va rester encore un mois, tu vas lutter un peu. Mais à peu près à un an, bien de prière, tu viens régulièrement à l'église, tu finis avec la cigarette, tu finis avec les désirs évidents, les désirs manifestes. Mais les désirs du moi sont très différents. L'âme, c'est votre personnalité. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Ces sentiments sont différents de la chair parce que la chair, c'est visible. Tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir. Tout le monde sait qu'il ne faut pas voler. Tout le monde le sait. Mais ici, c'est votre personnalité. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, il a soufflé en lui un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. En réalité, nous sommes une âme vivante. C'est l'âme qui sera jugée. Alléluia. C'est l'âme qui sera jugée. Mais notre personnalité, créée par nos différentes expériences, par notre vie de tous les jours, par notre éducation, par nos principes de vie, par nos sentiments, nos émotions, sont capables de nous empêcher d'entrer dans la victoire. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à gérer ça, vous ne pouvez pas être un chrétien de victoire. Vous allez constamment bâtir votre maison, peut-être un peu en profondeur, mais pas sur le roc. Elle sera toujours vacillante. Toujours vacillante. Et si vous ne prenez garde, ça peut, à force d'essayer de faire bien, et vous voyez que vous êtes constamment en train de revenir, ça peut m'entraîner en vous la déception, le découragement, et même vous amener à retomber dans les yeux de la chair que pourtant vous avez vomi. Alléluia. Lorsqu'on continue le passage, après la révélation de Pierre, Jésus dit ceci. Il va commencer à dire immédiatement à ses disciples, vous savez, je vais mourir bientôt, je vais partir, les gens vont me tuer, et ainsi de suite. Ce que Jésus a dit, c'est choquant. Pour quiconque l'aime, il n'aura pas une... Il va avoir la même réaction que Pierre. Pierre a dit, Seigneur, ne dis pas des choses comme ça. Il a pris à l'écart. Il dit, mais quand même, ne dis pas ça. Pourquoi tu racontes des choses comme ça? Pourquoi tu nous dis ça? Tu veux nous décourager. Nous te suivons depuis... On ne dit pas ça. Parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Et non. Jésus regarde. Et puis Jésus est très bizarre dans ses paroles. Pierre l'a pris à part. La Bible dit que Jésus est retourné. Il a regardé les disciples, puis il a crié. Arrière de moi, Satan! Or, ils étaient les deux. Lisez bien, ils étaient les deux à part. Hein? Il a dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu m'as en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La réaction de Pierre est normale, mais c'est la réaction de l'homme. C'est ici que la plupart des chrétiens trébuchent. Arriver à discerner les pensées de l'âme. Le moi. Le moi vous empêchera toujours d'avoir une vie chrétienne de victoire. Votre moi. Quelque chose qui est en vous qui n'est pas forcément péché. Qui n'est pas le péché évident, mais qui est là, en vous, et qui vous amène toujours à avoir une vie chrétienne oxyante. Il faut régler le problème du moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons toujours pour cela Luc, chapitre 9, verset 57. Il a dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pour avoir la victoire du moi, il faut, pour avoir le pouvoir avec le moi, il faut premièrement vraiment aimer Dieu. Les désirs de la chair conduisent en enfer. Les pensées du moi ne conduisent pas forcément en enfer. Ça vous décourage, ça vous déçoit. Mais le problème, c'est que votre vie chrétienne sera constamment en dents de scie. La plupart des chrétiens font l'effort énorme de dominer les désirs de la chair. Un chrétien normal. Mais au niveau du moi, ils ne font pas trop d'efforts parce que le moi et l'âme ne remet pas en cause leur salut. Le moi ne remet pas en cause son salut. C'est pas par lui, c'est pas directement lui qui peut te parler en enfer ou au paradis. Mais il est capable de t'empêcher de connaître le royaume de Dieu. La gloire du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ici, la première des choses, c'est que si vous voulez aller de l'avant avec le Seigneur, il faut être déterminé et décidé pour aller avec le Seigneur. Parce que lorsque Dieu va vouloir commencer à faire la délivrance, vous risquez d'avoir envie de retourner. Briser le moi prend du temps. Et c'est ce qu'on appelle généralement le désert. Beaucoup trébuchent au niveau du désert. Alléluia. Dieu va façonner le moi. Il y a deux façons particulières dont Dieu travaille votre moi. Il y a le brisement du moi involontaire, il y a le brisement du moi volontaire. Le brisement du moi involontaire, ce sont des circonstances que Dieu vous fait connaître, qui vous humilient, qui vont changer votre être intérieur. Si vous ne supportez pas, et c'est le cas de beaucoup, vous allez reculer. Le brisement du moi volontaire sont des choses, à un moment donné, que Dieu vous demande même de faire, qui sont contre vos principes de vie. Amen. Dans le moi, vous avez beaucoup de choses dans votre âme. Vous avez vos émotions, vos sentiments. Vous avez votre caractère, votre personnalité. Votre caractère et vos personnalités, vos principes de vie, peuvent être un obstacle pour Dieu. Je ne sais même pas peu, sont un obstacle pour Dieu. Sont des obstacles pour Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec toi si tu es trop plein de toi-même. Alléluia. Ici, Jésus, il y a quelqu'un qui est venu qui dit, Seigneur, je veux te suivre partout. Jésus lui dit, tu sais, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui n'ont pas l'envie de victoire parce que Dieu ne peut pas leur dire tout ce qu'il veut. Et c'est au niveau du brisement du moi qu'on reconnaît Jésus Seigneur. Dieu ne peut pas travailler avec eux parce qu'ils ont trop de principes et de choses auxquelles ils tiennent dans leur vie. Et ces éléments-là ne sont pas en eux-mêmes des péchés, mais ce sont des principes de vie. Ce monsieur-là, quel était son problème? Lui, il peut tout faire pour Jésus. Mais il doit bien dormir. S'il va aller Jésus là, avec Jésus, il faut qu'il ait un lit d'une certaine dimension, bien douillé, bien arrangé. Il faut qu'il ait de belles conditions de vie. C'est une bonne chose de vouloir cela, c'est pas mauvais. Mais c'est le fait de ne pas être capable de vivre sans ça. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Un enfant de Dieu doit pouvoir vivre dans les deux situations. Abondance comme disette. Si tu paniques quand tu n'as plus d'argent, c'est que c'est pas normal. Tu as un problème avec ton moi. La paix de Dieu, le Seigneur dit, sa paix, je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. Vous comprenez? La paix de Dieu n'est pas liée au matériel. Quand ton compte tend vers zéro, si tu deviens nerveux, si tu ne chantes plus et tu ne danses plus à l'église, mais tu viens à l'église, visage très sérieux, assis, triste, c'est que tu as un problème. Et que lorsque un gros chèque est arrivé, sans ce moment que tu loues, que tu danses, que tu sautes, tu as un problème avec ton âme. Alléluia. Tu as un problème avec ton âme. Tu ne peux pas avoir une vie qui est une victoire. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ce monsieur avait un principe de vie. Il pouvait tout faire pour Jésus, mais il faut que la maison soit climatisée. Il faut qu'il ait un joli matelas. Jésus lui dit, mon ami, les eaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'y a pas de lieu où reposer sa tête. Nos principes de vie font partie de nos états d'âme. Dieu va les attaquer. Amen. Oui. C'est ce qu'on appelle le moi. Ça empêche Dieu de faire ce qu'il veut avec toi. Il y en a qui ont des... Mais vous voyez ce qu'il... Est-ce que c'est un péché? Non. Ce n'est pas un péché. Mais il ne peut pas suivre Dieu partout. Parce que lui, il a des conditions. Dieu doit respecter certaines conditions pour que lui puisse le servir. Mais en fait, tu sers Dieu ou c'est lui qui doit te servir? Parce que le mot serviteur, c'est aussi le mot boy. Tu veux être le boy de Dieu, le domestique de Dieu, ou Dieu doit être ton domestique? Si vous avez un domestique chez vous à la maison, je vous dis ce que je vous disais la dernière fois aussi, un domestique chez vous à la maison, et que vous lui dites, tu sais, je voyage demain à 4h du matin, et je veux que tu te réveilles toi à 2h, et que tu commences à arranger les affaires. Et tu regardes, patron, tu sais, je t'aime bien, mais hier, moi, j'ai dormi à 23h, alors, tes enfants sont à la maison, tu leur dis à eux, ils ont beaucoup dormi, de ranger tes affaires. Moi, il faut que je dorme jusqu'à 6h. Et puis, je vais travailler. Quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce que vous faites? On le renvoie. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il a dormi tard, il ne ment pas. Mais, on n'est pas là pour suivre ce qu'il veut. Alléluia. Alors, quand tu dis, je suis serviteur et je suis serviteur de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu lui appliques tes principes de vie ou bien c'est le patron qui applique ses principes, ses règles de jeu.
Est-ce que tu sers Dieu? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui te sert? Ou bien est-ce que Dieu doit tu vas le servir dans toi, tes conditions? Au lieu de le servir dans les conditions du patron. C'est facile de dire, Seigneur, je suis ton esclave. C'est facile. Mais il faut le vivre. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle, vous avez les principes de vie. Et Dieu ne peut pas travailler avec vous avec ça. C'est très compliqué. Vous avez certains, par exemple, qui sont, et c'est très bon, ça, mais c'est le moi, qui sont extrêmement, c'est bien, ordonnés, rangés, méticuleux, ponctuels, toutes les qualités. C'est bien. Félicitations. Mais, si tes qualités, si tu dépends de tes qualités, ça veut dire quoi? Lorsque tu n'es plus dans ce cadre-là, tu paniques, tu ne veux plus servir Dieu. C'est que tu n'arrives pas encore avec ton moi. Et tu ne peux pas servir Dieu à tout moment. Ainsi, avec par exemple des personnes qui ne peuvent, Dieu ne peut pas les envoyer vers tout le monde. Dieu ne peut pas leur demander d'aider des gens qui sont par exemple désordonnés. Parce qu'eux, ils sont trop rangés. Quand il te passe un livre qui est bien propre, bien, quand tu le ramènes, ils ne veulent pas voir. Le livre écorné, c'est une bonne chose, je n'en disconnais pas. Dans la vie, il faut être comme ça. Mais si cela est capable de t'irriter, de t'attrister, c'est que là, tu as un problème. Alléluia. C'est ça les principes de vie. Et ça fait qu'il y a certains, par exemple, qui ont des principes de vie du genre, tu peux tout leur dire. Quand ils ont fait des erreurs, il faut savoir leur parler. Mais si tu élèves le ton sur eux, si tu cries sur eux, tu élèves le ton sur eux, même si ce que tu dis est vrai, ils vont te répondre. Et lui, on te dit, moi, tu peux tout me dire. Mais je ne supporte pas. Mais justement, ton jeu, ton moi là, c'est lui que Dieu veut détruire. Le Saint-Esprit, Dieu doit être capable de pouvoir t'envoyer, parler, évangéliser n'importe qui, même les crieurs. Il faut apprendre à supporter tout le monde. La Bible déclare en 1 Corinthiens 13 que l'amour supporte tout. Toi, tu peux décider de ne pas crier sur les gens. Mais tu dois accepter qu'on crie sur toi. Si tu trouves un crieur, gloire à Dieu. Tu peux être capable de supporter. Si tu ne supportes pas, c'est là le problème du moi. Et c'est là que beaucoup de gens jouent. Parce que Dieu ne peut pas faire d'eux ce qu'il veut. Parce qu'ils sont trop là eux-mêmes. Leur personnalité est un problème. Alléluia. Pierre, leur personnalité, leur principe de vie, leur règle de vie. Et quand Dieu va commencer à briser votre moi, il va toujours envoyer des gens vers vous qui vont se comporter pour briser vos principes. Si vous rencontrez ces individus, bénissez l'Éternel, car ils sont vos délivrances. Alléluia. Amen. Tu rencontres un frère dans l'église, tu commences à marcher avec lui. Il est ton antithèse. Désordonné. Tout ce qu'on lui donne, il gâte. Mon frère, si tu fais comme ça, c'est pas bien. Entretiens bien les affaires des autres. Je ne suis pas en train de reconnaître et de te couvrir. Mais je dis, toi aussi tu dois changer, ok? Mais, vous allez rencontrer sûrement un individu pareil, que vous ne supportez pas, par sa façon de parler, sa façon d'être. Bénissez l'Éternel. Cet homme-là sera pour vous une délivrance. Vous savez, si vous n'avez jamais été confronté à des individus pareils, vous ne pouvez jamais savoir que vous n'êtes pas capable de tout supporter. Alléluia. Vous ne devez pas supporter le péché, mais c'est évident. Mais ce dont je parle, ce n'est pas le péché. Ce sont des éléments de caractère. Parce que tu as un principe de vie, tu as un caractère, tu as une façon d'être. Ça, c'est le moi. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut être très bon chrétien, être beaucoup zélé, faire beaucoup d'œuvres pour Dieu, mais être rempli de soi-même. Et le problème du moi, c'est que vos qualités intérieures peuvent être très bonnes, excellentes devant les hommes. Mais pour Dieu, elles ne vous rendent pas disponibles à son service. Amen. Et cet homme-là, Christ a dit, les eaux du sol ont donné, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Et pour pouvoir avoir cette victoire, si ces éléments-là, il faut avoir de la détermination et de l'amour pour Dieu. Amen. Il faut accepter le brisement. Et le second qui est venu voir Jésus, là, Jésus va jouer sur ses sentiments et ses émotions. Il dit, Seigneur, je vais te suivre, mais je vais aller dire au revoir à ceux de ma maison. Pardon, Christ lui a demandé, suis-moi. Jésus va lui regarder, va dire, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va lancer le royaume de Dieu. Ce que Jésus a dit, c'est grave. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a perdu son père. Parce que qui va l'enterrer? Ce sont ses parents, ce sont ses frères. Toi, tu dis de ses frères, laisse les morts. Et tes frères, ta famille, ils sont des morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
Ça, c'est une injure, c'est une foutaise, c'est un manque de considération pour mon père, celui qui m'a mis au monde. En quoi est-ce que aller l'enterrer m'empêchera de te suivre? Les Écritures ne disent-elles pas « Honore ton père et ta mère ». Est-ce que cet homme-là, il veut se mettre que cet homme-là, il est de Dieu? Vous savez, quand Dieu va attaquer votre moi, il va vous faire des choses qui ne sont pas logiques. Ah ouais. Et ici, Christ va jouer sur les sentiments et les émotions. Les sentiments et les émotions sont des états d'âme. Et ici aussi, des éléments aussi quelquefois qui touchent, notre, qui favorisent notre caractère. On a l'habitude de citer les quatre types de caractère que vous connaissez, sanguin, phlegmatique, mélancolique et puis colérique. Dans le groupe des extravertis, c'est les caractères extravertis. Les extravertis, c'est ceux qui agissent plus qu'ils ne pensent. Les introvertis sont ceux qui pensent plus qu'ils n'agissent. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent beaucoup avant d'agir. Les autres, ils pensent un peu et puis ils foncent. Voilà. Mais tous ces quatre cas-là, Dieu doit briser tout ça. Il n'y a pas un qui est bien là-dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Un sanguin, les sanguins, les colériques, les sanguins, ils sont extravertis, ils sont des gens qui sont chauds, qui prennent le devant, qui sont les premiers à réagir. Bon, ils ont beaucoup de caractéristiques. Et vous savez, par exemple, lorsque quelqu'un est sanguin ou colérique, extraverti, par exemple, Dieu vient lui donner une révélation. Et Dieu donne la même révélation à quelqu'un qui est introverti, qui réfléchit plus, qui est beaucoup plus timide. Les deux vont avoir deux réactions différentes. Prenons l'exemple d'un colérique qui a une bonne vie de sanctification. Intègre, image droit. Dieu lui dit, la sœur qui est là a péché. Va, appelle-la, dis-lui de se repentir, console-la, forte, aide-la à se relever. Lui, c'est un colérique. Il entend la révélation du Seigneur. Donc, quand la parole est passée, ça rentre dans son âme. Son âme, dis-je, elle a péché contre l'Éternel. Il arrive vers elle. Et si par l'Éternel Dieu, tu as péché, répands-toi. Avec une telle colère. Or, la parole de Dieu, parce que la personne se culpabilise tellement, c'était une douceur que Dieu voulait pour la ramener. C'est elle sait qu'elle a péché, elle a besoin de consolation. Donc Dieu n'a pas envie de donner une parole marteau. Mais lui, son caractère colérique fait qu'il peut pas. C'est inadmissible. Comment tu peux être là, dans l'église, et vivre dans les. Il ne peut pas comprendre. Et il vient, il donne une parole semblable. Vous voyez, ce n'est plus la prophétie de Dieu. Le message est juste. Mais la traversée de son âme a faussé le message de Dieu. Son âme et son caractère ont changé le message de Dieu. Un introverti, par exemple. Dieu donne une bonne révélation pour l'église. Au lieu de donner le message, il va réfléchir. Dois-je prophétiser dans cette église? Oh, les gens sont venus. Jusqu'à le culte va finir et les gens n'auront pas le message de Dieu. À la fin, il va vouloir dire un mot parce qu'il réfléchit trop. Il n'est pas malléable entre les mains de Dieu. Et de toute façon, on est différent du caractère. Et si vous n'arrivez pas à vaincre le moi, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous savez, comme je dis, ce ne sont pas des choses qui sont péchées en elles-mêmes, mais qui vous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu, qui vous empêche d'hériter les choses du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vos sentiments et vos émotions, c'est pareil. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre être ne doit pas, vos sentiments ne doivent pas contrôler l'esprit. Vous devez gérer votre vie. Les émotions et les sentiments, quand Dieu va vouloir faire briser votre moi, ce sont des gens, vous allez avoir souvent des chocs et des vexations émotionnelles, souvent très fortes. Et ça va arriver, et ça doit arriver pour que vous appreniez avec votre moi. Alléluia. Ça doit arriver. Des gens qui vont vous trahir, des gens que vous aimez, parce que l'âme développe ce qu'on appelle l'amour filéo, l'amour d'attachement. Donc des gens à qui vous êtes attachés vont vous faire du mal. Et c'est ce que Christ a fait à ce jeune homme. Il attaquait ses émotions. L'amour et la considération qu'il avait pour sa famille. Pour que simplement, il donne à Dieu dans son cœur la première place. Alléluia. Ce qu'il avait à faire était certes logique, mais pour qu'il donne à Dieu la première place. Je le disais la dernière fois ici. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. La volonté de Dieu, c'est que dans notre cœur, Dieu doit être le premier. Frère, Dieu doit être le premier. Beaucoup de gens aiment Dieu, mais Dieu n'est que le deuxième ou le troisième dans leur cœur. Ça veut dire dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, premier dans leur cœur, c'est eux-mêmes. Deuxième, leur famille. Troisième, leur boulot. Quatrième, vient l'Éternel, les amis. C'est un bon rang. Ça produit des chrétiens zélés, actifs dans l'église. Mais dont eux-mêmes, la famille et le boulot influencent la communion et l'intimité avec Dieu. Toute leur vie spirituelle dépend de ce qu'eux ressentent, des problèmes de la famille et du boulot. C'est quand ils ont fini de tout régler ça, qu'ils trouvent un temps pour Dieu. Et ça se va se remarquer dans leur vie de prière, dans leur vie d'intimité avec le Seigneur. Ça se remarque dans ce qu'ils ont fait. Vous allez voir, quand ce sont les gens comme ça, quand ils arrivent à la maison, après le boulot, ils vont tout faire, parler avec tout le monde, regarder les films, tout. Et puis quand ils vont aller se coucher pour prier, ils vont donner à Dieu leur prière de sommeil. Oh Seigneur, je suis fatigué après une longue journée de boulot. Oh, je ne peux pas venir prier, je vais venir donner, puis ils dorment. Ou bien ils disent n'importe quoi dans leur prière. N'importe quoi. On m'a parlé d'un frère, lui, il priait, je donnais une veillée. Puis il priait, un moment il priait. Et puis, dans la prière, moi, il commence. On liait les démons, un truc comme ça. Il commence, poulet frites, poulet frites, poulet frites, poulet frites. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, que vois-tu? Il dit, ah, il se réveille. Amen. Vous savez, si vous aimez Dieu, vous allez avoir la capacité de vivre votre moi. Il faut donner à Dieu la première place. Il faut que vous puissiez dans votre cœur contrôler vos émotions. Quelqu'un que vous ne supportez pas montre que vous êtes lié. La Bible dit que si vous demeurez dans ma parole, ce qu'on a lu au début, Jean 8:30, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté consiste à ce que rien, aucun élément extérieur ne détermine vos pensées, votre façon de voir, votre façon d'agir. Amen. Quelqu'un que tu n'aimes pas, par hasard, par exemple, quelqu'un que tu n'aimes pas, dès que tu vois son visage, tu le vois arriver, tu deviens nerveux. C'est que toi qui as un problème. Parce que le monsieur là t'a lié, il détermine ta joie et tes humeurs. Tu peux être dans la joie, lui il va déterminer si tu dois être content ou si tu dois être fâché. C'est que tu as un problème. Alléluia. Voilà quelqu'un qui détient ton bonheur et ta joie. Sa présence ou son absence, s'il n'est pas là, tu es content. Quand il est là, alors tu montres que tu es fâché. Amen. Je vais m'arrêter là-dessus. Alléluia. Il faut avoir, il faut laisser Dieu transmettre votre moi. Soyez déterminé dans votre cœur pour aller avec le Seigneur. Si vous avez la victoire sur la chair, la victoire sur le moi, vous marchez par le Saint-Esprit, vous allez avoir une victoire de victoire. Vous n'allez pas être oxyant comme l'apôtre Pierre, qui est capable à un moment de donner une parole du Saint-Esprit et qui le lendemain agit par lui-même. Ensemble, blessons les têtes et prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Au nom de Jésus.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.